Voilà, ce travail pastoral. Un deuxième sujet de prière, si vous savez pas, pour la prochaine réunion de prière. Priez pour qu'il y ait des pasteurs et qu'il y ait beaucoup d'amour entre les frères et les sœurs. Sixièmement, c'est rayonner. Rayonner, c'est d'abord peut-être vis-à-vis des anges. Et c'est ainsi que, dans le chapitre 3 de l'Épître aux Éphésiens, il est parlé justement de l'Église, de ce mystère caché dès les siècles. L'Église, Christ et les croyants unis ensemble. Le Christ, c'est l'Église et le Seigneur Jésus et le Christ ensemble, liés ensemble. C'est indissociable, indissoluble. Eh bien, ce mystère caché au verset 9, en Dieu qui a créé toutes choses, afin que la sagesse si diverse de Dieu soit maintenant donnée à connaître aux principautés, aux autorités, dans les lieux célestes, par l'Assemblée, selon le propos éternel. La sagesse de Dieu. Les anges découvrent ce que Dieu a fait. Voilà des personnes qui, là, allaient et venaient, et les voilà rassemblées pour être une famille, et qui adorent ce Dieu qui les a rassemblées. C'est aussi pour montrer l'ordre selon Dieu. Et c'est vrai que si en Christ, hommes et femmes, nous sommes pareils en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. N'empêche que sur la terre, il y a encore une différence. L'homme et la femme sont différents et chacun a sa place et sa fonction. Et ça aussi, les anges regardent. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et puis, il y a vis-à-vis des hommes. Alors j'ai marqué « venez » et puis après « allez ». L'évangélisation, mais c'est l'évangélisation dans son sens large, rayonner. Et c'est vrai que dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 14, voilà une église qui fonctionne. Chaque membre est inondé de l'Esprit de Dieu. L'Esprit vit et la personne vit de Christ. Et alors, les personnes passent, entrent, l'assemblée tout entière s'est réunie, et que nous lisons. Et nous voyons que la personne qui entend, au verset 24, et si tous prophétisent, et qu'il y a quelqu'un crédule ou quelque homme simple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont rendus manifestes, et ainsi tombant sur sa face, il rendra hommage à Dieu, publiant que Dieu est véritablement parmi vous. Rayonnement. Donc comment sommes-nous lorsque nous sommes réunis autour du Seigneur Jésus, dans la présence de Dieu, et quelqu'un qui entre? Qu'est-ce qu'il remarque? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Venez. Alors, moi je vous dirais, je ne sais pas comment vous êtes, il y a une période où on n'osait pas trop faire venir les gens dans nos rassemblements, parce qu'on avait peut-être un peu honte de ceci, cela, nos cultes sont un peu tristes, je ne sais pas, on a eu plein d'idées comme ça. Peut-être pas vous, moi j'ai eu. Et puis, j'ai dit non, là ici, voilà, quand on est tout simple, on n'essaye pas de jouer un rôle, on ne joue pas la réunion. Ah si vous jouez la réunion, voilà, ça c'est pas bien ça. Ça c'est pas bien si vous jouez la réunion. Par contre, si vous venez là vraiment avec un cœur pour Dieu, ben c'est pas la peine de chercher à faire autre chose qu'à être authentique. Soyez vous-même. Et ce moment-là, si quelqu'un rentre, eh ben il peut rentrer, invitez-le. Et bien si vous êtes authentique, ben il verra. Et puis il choisira. Après, il y a aller. Et c'est pour ça que dans la première épître de Pierre, il est parlé aussi d'aller annoncer les vertus de celui, etc., du Seigneur Jésus. Les vertus. Allez, annoncez ça. Nous sommes une nation sainte, mise à part. Nous sommes un peuple élu. Allez, racontez, racontez. Mais racontez surtout par votre vie. D'abord par votre vie. Si votre vie n'est pas en règle, ça ne sert à rien ce que vous racontez. Si, parce que Dieu, de toute façon, il utilise tout. Tout parce qu'il veut se glorifier. Je dis pas ça pour pas faire le tri dans nos vies. Mais heureusement que Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits, parfaits dans le sens pratique du terme, pour qu'on puisse commencer à parler du Seigneur autour de nous. Parce qu'autrement, la barre serait tellement haute, ce serait impossible. Mais n'empêche, veillons à nos vies pour pas qu'il y ait de discordance entre ma vie et ce que je proclame. Alors, authentique. Et c'est pour ça que j'ai ici marqué plusieurs choses. Une lampe, la colonne et le soutien de la vérité, et puis une lettre. Alors, c'est sûr que la lampe au milieu de la nuit, c'est l'Apocalypse, chapitre 2. Alors, il y a les sept lampes, et puis c'était vraiment des églises locales. Alors, nous sommes une lampe. Vous savez, attention, aujourd'hui, on aime beaucoup nous souvenir du passé, oui, dans les villes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a un beau monument, On met des éclairages pour la nuit. Alors on éclaire le monument pour dire qu'est-ce qu'il est beau. Ah, vous savez, nous avions des frères autrefois. Le mouvement des frères, ceci, cela, les projecteurs sur ce beau bâtiment. Mais il n'y a que des pierres mortes dedans. Non, la lumière, elle vient pas du projecteur qui dit là, là, l'église autrefois. Non, c'est la lumière vient de dedans, puisque c'est une lumière qui est la lumière de la vie de Dieu, de Christ qui luit dans ma vie et dans la vie des frères et sœurs. Et l'église locale, la lampe, est dedans. C'est pas un éclairage sur notre passé, attention. Mais justement, et j'ai noté, je vous lis juste une petite phrase, la réalité de la présence de Christ, vécue au milieu des siens, constitue l'authenticité de l'Église, de même que la force vitale de la sève constitue la santé ou la vie de l'arbre, sans quoi il n'est qu'un morceau de bois mort. Ça, c'est essentiel. Ensuite, la colonne est le soutien de la vérité. La colonne, pour que ce soit vu, qui soutient la vérité. Alors vous allez dire, ça y est, ça c'est la doctrine, on apprend bien la doctrine, on la raconte, et comme ça, ça y est, la mission de l'Église est bonne. Mais non, c'est pas ça. La vérité, c'est encore une personne. La vérité est en Jésus-Christ. Vous allez trouver ça en Jésus, vous trouvez ça dans l'Épître aux Éphésiens. C'est encore important de dire et de redire que l'enseignement qui est donné, ce n'est pas simplement des dogmes, des doctrines, mais c'est quelque chose qui met en évidence et qui donne un enseignement sur la personne du Seigneur Jésus, sur son œuvre, sur ce qu'il est. Et c'est ça l'essentiel. C'est important de nous en souvenir. La colonne est le soutien de la vérité. Et puis, troisièmement, la lettre lui est connue de tous les hommes. Eh bien, ce n'est pas nous qui lisons la lettre. Il y a des personnes qui lisent la lettre. Est-ce que c'est clair? Est-ce que la lettre est claire? En regardant vivre l'église locale, les croyants, quelquefois quand ils sont rassemblés, lorsqu'ils sont aussi au milieu de leur travail, et lorsqu'ils sont en groupe, etc., eh bien, est-ce que l'on discerne la personne du Seigneur Jésus? Est-ce que Dieu est vu? Comment voulez-vous, si des gens ne lisent pas la Bible, ne vont pas dans les églises, comment voulez-vous que Dieu soit vu sur la terre? Alors il est vu dans les saisons, il est vu dans la création, mais il est vu dans la vie des croyants et lorsqu'ils sont ensemble. Alors maintenant, dans la pratique, c'est l'évangélisation, c'est vous avez tout un tas d'idées, vous les avez, et les jeunes, vous avez des idées. Et c'est bien, continuer à parler de celui qui a changé votre vie. Ensuite, transmettre. C'est le sixièmement, c'est transmettre. Vous savez, dans une église locale, il y a en général 3 ou 4 générations. Ces générations se côtoient pendant une période. La génération ancienne s'éteint et une nouvelle génération se lève. Et ça, ça dure depuis la Pentecôte. Et vous voyez, il y a des occasions de travailler aussi ensemble. Mais c'est ainsi essentiel de penser que chaque génération est utile à l'autre. Les plus jeunes sont utiles aux plus âgés comme les plus âgés sont utiles aux plus jeunes. Et ça, c'est essentiel. Et ça, il y a donc aussi un défi, c'est de pouvoir transmettre à la génération qui suit ce que nous avons reçu de la génération qui vient. Mais encore une fois, si c'est simplement un ensemble de dogmes que vous transmettez, c'est la mort assurée. Ça ne peut pas fonctionner. Alors qu'est-ce que nous pouvons transmettre? Je voudrais vous raconter encore une histoire que j'ai déjà racontée. Il y avait des pasteurs qui discutaient entre eux sur les traductions de la Bible. Et il se disait, moi j'aime bien celle-ci pour telle ou telle raison, et moi je préfère celle-là pour telle ou telle raison. Et puis, il y en a un qui dit, bien moi écoutez, celle que je préfère, c'est la traduction de ma mère. Pourquoi elle a traduit la Bible? Non. Mais je vois la Bible vivre dans ma mère chaque jour. Et voyez, c'est ça, je crois, la vraie transmission du trésor que nous avons reçu. C'est cette vie de Jésus qui me transforme et que j'ai à transmettre à mon enfant, à ma fille, à mon fils. À mon enfant peut-être spirituel, parce qu'il y en a qui n'ont pas d'enfant physiquement. Alors transmettre ça. Et ça, c'est la vie qui est transmise. Et ça, c'est essentiel. Et c'est ce que nous avons à faire, absolument. Alors, peut-être que j'ai quelques versets à vous lire dans le psaume 78. Qu'est-ce qu'il est dit? Dans le 78, il est dit ceci, au verset 3, Alors les paroles que nous avons entendues de nos pères nous ont raconté des paroles, nous ne les scellerons pas à leurs fils, nous raconterons à la génération à venir les louanges de l'Éternel et sa force et ses merveilles qu'il a faites. Au verset 5, la loi qu'il a commandée à nos pères pour qu'ils les fissent connaître à leurs fils, afin que la génération à venir, les fils qui naîtraient, les connussent et qu'ils se levassent et qu'ils annonçassent à leurs fils et qu'ils missent leur confiance en Dieu et qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, etc. Raconter, on ne va pas cacher ça, on va raconter ça à nos fils. C'est essentiel de transmettre, que l'Église transmette à la génération qui suit. Il y a Moïse qui disait que Dieu avait été de génération en génération notre refuge. C'est dans le psaume 90. Est-ce que nous pouvons dire cela à nos enfants? Est-ce que nous pensons aussi que quand Paul parlait à Timothée, son enfant, il voulait lui transmettre vraiment ce qu'est la personne du Seigneur Jésus pour qu'il lui-même il le transmette à d'autres, qui seront capables de le transmettre encore à d'autres? La transmission, et c'est tellement essentiel. Et quand il voit les chrétiens d'Éphèse pour la dernière fois, alors il dit des choses tellement essentielles, donc dans le livre des Actes au chapitre 20 et au verset 28. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour paître l'Assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. Mais moi je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas. Alors je vous recommande à la parole de la grâce qui est la puissance d'édifier. Vraiment, je... » Alors, comment concrètement? Dans nos maisons d'abord. Vous n'êtes pas obligé de faire une lecture biblique d'une heure tous les jours, entre 6 et 7 le matin. Non, vous n'êtes pas obligé. Mais que vraiment, cette vie de Christ, eh bien, vous puissiez le communiquer. Vous avez tout un tas d'idées pour le faire, mais prenez le temps. Il y a des voleurs de temps. La télé, c'est pas que mal la télé, mais franchement, le temps. Comment vous faites, franchement, comment vous faites, après une journée de travail, avoir le temps de passer du temps à la télé? L'ordinateur, Internet, quelle catastrophe. C'est formidable, mais quelle catastrophe. Que de temps perdu. Vraiment, nous avons besoin de nous mettre devant Dieu et de lui dire, Seigneur, maintenant, je voudrais vraiment avoir une vie toute pour toi, sachant où sont les priorités, retrouver les priorités pour pouvoir vivre vraiment de toi, pour pouvoir transmettre. Transmettre la vie à ceux qui me voient marcher. J'ai mis course de relais, pourquoi? Parce que j'ai été frappé. Quand il y a un relais, alors il y en a un qui court, et à un moment donné, l'autre se met à courir à côté, et puis il passe le relais. Mais il y a toute une période, il marche à côté pour que le relais soit bien passé. Est-ce que la génération plus âgée que la plus jeune prend du temps avec la plus jeune génération? Faire des visites, par exemple, avec les plus jeunes, parler, voilà. Du temps, le passage du relais, c'est tellement important, vraiment. Et puis aider un jeune dans la prière. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais vous savez, pour apprendre à prier en public, commençons à la maison. Quand vous êtes réunis pour lire la Bible, même si c'est un petit peu, mettez-vous ensemble à genoux et que les enfants prient. Au début, c'est bizarre, mais ça fait rien. Et petit à petit, vous allez découvrir leur conversion par la prière parce qu'elle sera modifiée. Ça, c'est extraordinaire, de pouvoir voir le développement spirituel de son enfant dans la prière à la maison. Et s'il apprend à prier ouvertement, avec sa bouche, avec des mots, eh bien, ce sera plus facile pour lui de prier en groupe avec ses copains et puis prier après dans l'église. Alors, une armée en marche. Parce qu'il y a un verset aussi qui dit dans l'épître aux Corinthiens, chapitre 15, voilà, il y en a qui sont morts, vous êtes baptisés pour les morts ou à la place des morts. Ça veut dire qu'il y en a qui meurent dans le combat. Et il y en a qui prennent le relais, et l'armée, elle est toujours en mouvement, et toujours d'attaque contre l'ennemi. Et puis, terminer par le dernier défi, attendre le Seigneur. Mais quand? Mais maintenant? Et ça change tout. Franchement, ça change tout. Si vraiment on a cette pensée du retour du Seigneur dans notre vie de tous les jours, y compris la vie professionnelle, ça change tout. Que le Seigneur nous accorde cette joie de pouvoir... relever ces différents défis, ces 7 défis. L'Église locale, c'est une volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour qu'il soit vu sur la terre. Eh bien, voilà, nous pouvons vivre localement, là où nous sommes, cette vie de Dieu, ensemble, c'est-à-dire l'Église de Dieu.